près de toi, je me sens bien. Je n'ai que toi. Est-ce que c'est une réalité ? Dans nos cœurs, dans nos vies, est-ce que Jésus est tout pour nous ? Il y a un psalmiste qui s'est exprimé, il a dit « Quel autre ai-je au ciel que toi ? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. » On va ouvrir la parole de Dieu et vous savez qu'on approche d'une fête, l'une des fêtes les plus importantes parmi nos frères juifs. Je parle des frères juifs messianiques. Et l'une des fêtes très importantes, c'est la fête de la Pentecôte. Donc dimanche prochain, nous nous rappellerons qu'à un moment donné, ils étaient réunis dans une chambre haute et là, il était environ 120, le Saint-Esprit est tombé. Et j'ai voulu justement, ce matin, nous attarder, que l'on puisse s'attarder sur l'attente justement qu'ont vécu les disciples un peu avant cette expérience qu'ils ont vécue dans cette chambre haute. Et pour cela, je vous encourage à lire quand même une lecture assez conséquente, c'est Actes chapitre 1, du verset 1 jusqu'au verset 14. Ça va, c'est pas trop long. Alors on va lire ensemble. Hein. C'est juste histoire de se plonger un petit peu dans le contexte de l'époque et découvrir un petit peu les attitudes, les comportements bien de nos frères que nous allons retrouver là-haut, frères et sœurs, puisque dans la chambre haute, il y avait hommes, femmes, et ensemble, ils cherchaient la face de Dieu. Actes chapitre 1, verset 1, et nous lisons ensemble. On laisse le temps quand même de chercher le passage. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau. Mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres, réunis, lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, et pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu, allant au ciel. » Alors, ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, excusez-moi, à la distance d'un chemin de sabbat. Et quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Et tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Amen et Amen. Quelle expérience de nos frères que nous retrouverons bien sûr dans le ciel. En tout cas, suite à la lecture que nous venons de faire, je note un premier détail qui, à mon sens, a toute son importance. Je note avec vous en effet que Jésus-Christ, après sa mort et sa résurrection, n'est pas immédiatement remonté au ciel. Est-ce que vous avez constaté avec moi ? Après sa résurrection, il est resté 40 jours. Et ça me parle. Ça nous parle ce matin de l'amour que le Seigneur a pour nous, pour ses enfants, pour ses disciples. Durant 40 jours, le Seigneur, on l'a lu ensemble, apparut à ses disciples. Et il leur parla des choses concernant le royaume des cieux. Et puis, c'est le temps qui nous manquerait, mais on aurait pu regarder dans l'évangile selon saint Jean, chapitre 21, et on aurait aussi découvert que durant cette même période de 40 jours, Jésus a pris le temps de régler, entre guillemets, ce petit contentieux qu'il avait avec Pierre. En le rassurant son cœur, lui disant pour sa part, il avait déjà pardonné depuis longtemps. Et d'ailleurs même, il l'a montré aux yeux de tous, eh bien qu'il avait même réhabilité Pierre. Il dira d'ailleurs quand tu seras converti, tu affermiras tes frères. Toujours dans cette période des 40 jours, eh bien, le Seigneur a rappelé, ou en tout cas annoncé à ses disciples, eh bien, quelle serait la grande mission, leur grande mission, à savoir prêcher la bonne nouvelle, eh bien, à toute la création. Mais il va rajouter, eh bien, que avant de pouvoir entrer dans cette tâche immense, ils avaient besoin d'attendre à Jérusalem l'accomplissement de la promesse de l'effusion du Saint-Esprit. Oui, toutes ces choses se sont passées eh bien, durant ces 40 jours et nous voyons 40, quand ces 40 jours sont écoulés, c'est ce qu'on a fêté précédemment, Jésus est remonté au ciel et nous avons vu après par la suite les disciples qui durant 10 jours eh bien, ont intercédé, ont persévéré dans la prière, c'est ce que nous avons lu tout à l'heure, eh bien, jusqu'à ce que le baptême du Saint-Esprit leur soit accordé. Et d'ailleurs, Jésus eh bien, le rappelle au verset 8, on l'a lu tout à l'heure, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez quoi ? Mes témoins, où ? À Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre, et j'ose rajouter, jusqu'à Istres. » Amen. Et le Seigneur compte sur nous eh bien, pour que nous soyons aussi ses témoins ici-bas. Je crois que l'une des plus grandes erreurs que pourrait commettre l'Église de Jésus-Christ du 21e siècle, c'est de penser même un seul instant qu'on puisse accomplir la tâche, cette mission de pouvoir prêcher l'Évangile, d'annoncer eh bien, la parole de Dieu autour de nous, car ça ne concerne pas seulement les ministères, ça concerne chacun d'entre nous, parce que la Bible nous dit que nous avons tous reçu le ministère de la réconciliation. Nous sommes tous appelés potentiellement à pouvoir, à un moment donné, ouvrir la bouche. Et quand le Saint-Esprit nous pousse à le faire, de pouvoir parler, alléluia, de la part du Saint-Esprit. Amen ou pas amen, frères et sœurs. Produire du fruit. Parler de Jésus avec une grande fierté. Et j'aime à le dire, nous sommes fiers d'appartenir à Jésus-Christ. Et on n'a pas besoin de se cacher. Au contraire, plus que jamais, eh bien, que nous soyons ces lumières, comme Jésus l'a dit, ce sel pour cette terre. La Bible est claire. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez absolument rien faire. Et dans l'Ancien Testament, c'est eh bien, le prophète Zacharie qui exprime en ces termes, il dit, ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Et vous savez qu'est-ce que ce dont a besoin l'Église aujourd'hui ? C'est d'être rempli du Saint-Esprit. Frères et sœurs, on a besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Même pour louer, adorer le Seigneur, on a besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Hein ? On le verra tout à l'heure. Pour être passionné, pour être bouillant, pour être dans un engouement, pour être plein de ferveur, il faut être rempli du Saint-Esprit. Ça ne se fabrique pas. Vous savez, quand on est rempli du Saint-Esprit, on ne dit pas « Allez, allez, ouvre la bouche, prie, chante, etc. » Frères et sœurs, quand vous êtes rempli, c'est débordant. Ça déborde. Ça éclabousse, mais dans le bon sens, tous ceux et celles qui sont à notre contact, on devient ivre. La Bible dit, Jésus qui parle d'ici, quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, et alors des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Et alors, alléluia, eh bien nous devenons à ce moment-là une source d'eau vive, à notre tour, eh bien pour ceux et celles qui sont à notre contact, non pas par nous, mais par la présence du Seigneur, alléluia, dans nos vies. Toujours est-il, eh bien, dans le texte qu'on a lu en introduction, j'ai eu à cœur de pouvoir partager avec vous juste eh bien, quelques mots, quelques expressions qui m'ont interpellé. J'en ai juste sélectionné deux. Si vous le permettez, on va le partager. Premièrement, tout d'abord, je relève que Jésus a dit à ses disciples une chose. Quelle est cette chose ? C'est d'attendre. D'attendre patiemment la promesse du Père. Est-ce qu'on aime attendre, frères et sœurs ? Est-ce que nous sommes des gens patients ? Quelqu'un dit oui, mais les autres sont restés prudents. Il faut le reconnaître, le fait d'attendre n'est pas toujours chose facile, chose aisée. Surtout dans la société actuelle. Vous savez, la société actuelle, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il y a une telle pression, c'est d'ailleurs une société de consommation où tout doit aller très vite. Et au point qu'on désapprend à attendre. Il faut que les choses arrivent de suite. Un peu comme vous êtes devant une machine automatique, quand on met la pièce, il faut que ça tombe. Et malheureusement, ça se retrouve aussi dans le milieu chrétien. On prie, eh bien, comme le Seigneur n'a pas répondu à l'instant même, eh bien, on abandonne, on lâche prise. Attendre. L'attente est aussi, c'est vrai, une réalité dans la vie du chrétien. Quand, par exemple, on attend la réalisation d'une promesse, Dieu parle, frères et sœurs, et Dieu laisse des promesses. Et peut-être que vous avez dans votre cœur une promesse que vous serrez fortement, ben gardez-la, gardez-la. Mais quelquefois, Dieu nous demande d'attendre. Ce n'est pas parce qu'il nous a donné une promesse qu'il va l'accomplir à l'instant même. Il a son temps et Dieu fait toutes choses belles en son temps. Lorsque nous attendons Dieu par rapport à un exaucement, par rapport à une prière qui est pressante pour nous, un besoin qui est là, et Dieu voit notre sincérité, notre cœur, et il sait que cette demande est légitime. Il faut aussi le reconnaître, quelquefois, notre attente devient synonyme d'épreuve, synonyme même de souffrance. Alors qu'on est là, on persévère dans la prière, les larmes ne peuvent être empêchées de couler sur notre visage, parce qu'on souffre, parce qu'il y a un besoin qui est là et qui est pressant. Mais je voudrais justement, de la part du Seigneur, ce matin nous rappeler que l'attente des disciples, l'attente des chrétiens, l'attente des justes, doit avant tout être vécue dans la joie. C'est Salomon qui a exprimé cette vérité dans le livre des Proverbes au chapitre 10 et le verset 28. Regardez ce qu'il est dit, littéralement. L'attente des justes n'est que joie. Mais l'espérance des méchants périra. Cette deuxième partie ne nous concerne pas. Ce matin, l'attente des justes n'est que joie. L'attente des chrétiens de l'Église n'est que joie. Es-tu dans la joie, mon frère, ma sœur, de l'attente, de l'exaucement du Seigneur? Vous savez pourquoi on peut parler de joie? Parce qu'on sait que Dieu nous aime. Et c'est quelque chose, un point sur lequel je ne veux pas laisser le diable me mentir. Jamais le Seigneur m'a fait défaut. Au contraire, c'est moi qui bien souvent l'ai trahi, bien souvent l'ai attristé. Mais jamais le Seigneur m'a fait défaut. Et même dans des situations inextricables, difficiles, in extremis, il est venu me secourir. Jamais il a manqué à l'appel. Vous savez, le Seigneur, il n'est jamais en avance, mais jamais en retard. Il est au bon moment. Il est le contrôle, il contrôle les circonstances. Il tient le monde et l'univers entre ses mains. La Bible nous dit que quand le déluge coulait là sur toute la surface de la terre, lui, il était sur son trône et il régnait. Il continue à régner. Je bénis le Seigneur pour cette prière tout à l'heure par rapport à nos frères et nos sœurs sur Jérusalem. On a besoin de prier pour Jérusalem. On a besoin de prier, alléluia, pour nos frères messianiques, de prier pour tout ce peuple. Et aussi, je le dis, pour le peuple palestinien aussi. Parce que Dieu aime tous les hommes. Mais nous n'oublions jamais que le salut vient des Juifs et que Dieu a commencé à choisir un peuple, le peuple d'Israël, d'où il a tiré un homme, Abraham. Et nous sommes, quelque part, entre guillemets, les enfants d'Abraham, celui qui a cru et cela lui a été imputé à justice. On a un lien par rapport à ce qui se passe. On ne peut pas rester indifférent par rapport à ce qui se passe là-bas. Et le Seigneur, lui aussi, est au contrôle. Que Dieu puisse toucher un nombre conséquent de juifs, mais aussi de palestiniens qui se tournent, alléluia, vers la lumière, comme on l'a entendu. Et Jésus s'est présenté comme étant la lumière. Revenons quand même à notre texte. Vous savez, en parlant de joie, quand il est dit « l'attente des justes n'est que joie », je crois vraiment que la joie fut le partage des disciples tout le long de leur attente du baptême du Saint-Esprit. Essayons de parcourir avec eux durant ces 40 jours une joie les animait, puisqu'ils ont retrouvé et repris courage quand ils ont vu le Seigneur réapparaître. Ils venaient de vaincre la mort. Et puis est arrivé ce moment où Jésus les a emmenés sur le mont des Oliviers. Et là, il y a eu cette séparation de courte durée. Mais la Bible est claire et formelle. Ils ne sont pas partis en pleurant, en pleurnichant, etc. de ces moments-là. Regardez, et j'en ai pour preuve les versets suivants, tirés d'ailleurs de l'évangile de Luc. Et pour la petite histoire, vous savez que l'auteur du livre des Actes des Apôtres est le même auteur de l'évangile de Luc. C'est Luc lui-même qui a écrit à un certain Théophile, nous l'avons lu en introduction. Et regardez ce qu'il est dit dans Luc chapitre 24, les versets 50 à 53, qui nous donnent quelques compléments d'informations par rapport à ce qui s'est passé pendant l'ascension du Seigneur. Il nous est dit, Luc chapitre 24, verset 50, c'est à la fin du livre de Luc. Luc chapitre 24, verset 50. Jésus les conduisit jusque vers Béthanie et ayant levé les mains, il les bénit. Verset 51, pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Verset 52, pour eux, après l'avoir adoré, il y a eu un petit culte, vous voyez, juste après l'ascension, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande tristesse. Ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. On aurait pu, eh bien, Luc aurait pu dire avec une joie. Il insiste avec une grande joie. Et je crois que cette joie, eh bien, n'a pas cessé, eh bien, de les accompagner. Et je les vois en train de courir, de descendre, alléluia, le mont des Oliviers pour monter autre part, c'est-à-dire dans la chambre haute. Et là, alléluia, attendre la promesse qui allait venir, c'est certain. C'est certain, frères et sœurs. Permettez-moi aussi de dire que l'attente du chrétien ne sera jamais vaine. Tu es peut-être, mon frère, ma sœur, en train d'attendre. Et la promesse, tu ne l'as pas encore vue s'accomplir. Tu fais bien d'attendre, parce que ton attente ne sera jamais vaine. C'est cette fois-ci Tsophar, l'un des amis de Job, qui exprime cette réalité dans Job chapitre 11 et le verset 18. Regardez ce qu'il dit. Il s'adresse bien sûr à Job, tour à tour, vous avez eu les trois amis de Job, s'exprime à son égard. Et il y a des bonnes choses qu'ils ont dit quand même. Par exemple, tu seras plein de confiance et ton attente ne sera plus vaine. Tu regarderas autour de toi et tu reposeras en sécurité. Le passage qui nous intéresse, c'est la première partie de ce verset. Tu seras plein de confiance et ton attente ne sera pas vaine. Et ces deux phrases sont intimement liées. C'est parce que tu es plein de confiance que ton attente ne sera pas vaine. Et pourquoi ton attente ne sera pas vaine ? Eh bien parce que tu sais que le Seigneur qui a promis, qui t'a fait la promesse, eh bien il est tout puissant aussi pour l'accomplir. Et là encore, nous pouvons être sûrs et certains que les disciples avaient confiance que le Seigneur allait intervenir. Ils ne se posaient pas la question, est-ce que le Seigneur va, est-ce qu'il va réellement descendre, est-ce qu'il va réellement envoyer la puissance du Saint-Esprit ? Non, ils ne se posaient pas la question, ils en étaient convaincus, le Seigneur allait venir. C'était juste une question de temps. Et je les vois le premier jour à persévérer, puis arriver le deuxième jour, toujours rien. Troisième, quatrième, cinquième, jusqu'à 10 jours. 10, c'est le chiffre de l'épreuve. Et ils ont été jusqu'au bout. La Bible nous dit qu'ils étaient environ 120. Mais quand on a lu tout à l'heure dans le texte, acte, on voit qu'il y a quelques-uns qui sont décrits. Ils étaient moins que 120 et peut-être que le nombre a grossi. Une soif était là dans leur cœur. Ils attendaient la promesse. Et puis à un moment donné, lors de la fête de la Pentecôte, est descendu puissamment le Saint-Esprit. De même, pour que notre attente ne soit pas vaine, frères et sœurs, nous aussi, soyons pleins de confiance que ce que Dieu promet, il est en mesure aussi de l'accomplir dans nos vies. Pourquoi ? Parce que Dieu, il est fidèle. Je pourrais vous donner des versets, voilà, presque à l'appel, concernant eh bien, la fidélité de Dieu et le fait que eh bien, ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Regardez, par exemple, Nombre chapitre 23, verset 19, il nous est dit quoi ? Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Souvent, trop souvent, inconsciemment, on rabaisse Dieu à un homme. Oh, mais non, si je lui explique ça, non, il n'a pas besoin d'entendre ça. Dieu est au courant de tout ce que nous pouvons penser en cet instant. Tous nos soucis, il les connaît et il prend soin de nous, tel un père, alléluia, à l'égard de chacun de ses enfants. Et il veut nous rappeler ce matin qu'il n'est point un homme, il est Dieu. Il n'a ni commencement ni fin. Et ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas ? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas ? Frères et sœurs, les disciples dans la chambre haute étaient forts parce qu'ils avaient déjà entendu le Seigneur leur dire avant même sa mort eh bien, qu'il allait mourir et le troisième jour, il allait ressusciter et ça s'est accompli. Forts de cela, eh bien, ils étaient sûrs que le Seigneur allait intervenir. Frères et sœurs, nous aussi soyons sûrs, soyons convaincus, soyons convaincants, eh bien, même au travers de nos prières. Oh Seigneur, si tu veux, peut-être bien que oui, peut-être bien que non, accorde-moi ça, s'il te plaît, etc. Et puis ça ne mange pas de pain, on va essayer. Ça, ce n'est pas la foi, frères et sœurs. Mais ayons la foi, une ferme conviction que notre attente ne sera jamais vaine. Le Seigneur fera toujours concourir à notre bien. Alléluia, tout ce qui pourrait nous arriver, bien comme mal. Et comme le dit la Bible, attendons en silence le secours de Dieu, parce que quelquefois c'est ce qu'il faut. On n'a même plus de mots pour demander à Dieu eh bien, l'exaucement à une telle prière. Mais la Bible dit, il est bon d'attendre en silence le secours de Dieu. On a besoin d'apprendre et réapprendre à attendre, à s'attendre à Dieu, à attendre de Dieu l'exaucement tant attendu. On ne sait plus attendre, on est impatient. Ah mais ça ne marche pas. Et là, quelque part, le diable, il rigole. Seigneur, augmente notre foi. Est-ce qu'on est capable de dire ça au Seigneur ce matin ? Augmente notre foi. Moi, je ne veux jamais dire que le Seigneur est un menteur. C'est nous qui manquons de foi et de persévérance. C'est nous qui, quelquefois, sommes impatients. J'ose aussi rajouter que l'attente du chrétien doit être une attente active et non passive. Parce que là aussi, je pourrais donner l'exemple, quelqu'un qui veut être baptisé du Saint-Esprit, mais qui, paradoxalement, jamais ne demande à être baptisé du Saint-Esprit. Ou vient de manière désinvolte devant le Seigneur, bon, écoute, on va essayer, bon, s'il me donne, merci, bon, s'il ne donne pas, c'est pas grave. On a besoin eh bien, d'attendre de Dieu d'une manière active. Et qu'est-ce que ça veut dire, attendre de Dieu d'une manière active ? C'est avoir quelque part des attitudes. Attitudes ou actes de foi que pourrait nous inspirer le Saint-Esprit. Vous savez, le Seigneur n'a pas besoin de nous pour accomplir ses promesses. Par contre, on peut avoir une attitude que va nous inspirer le Saint-Esprit eh bien, pour réellement attendre l'accomplissement de la promesse, pour accueillir pleinement l'accomplissement de la promesse. Et en tout cas, c'est ce que a pu vivre les disciples durant leur attente de la promesse divine. Et on le lit. Actes chapitre 1, verset 12-14, on l'a lu tout à l'heure, je le relis pour nous réimprégner un petit peu de ce qui s'est passé. Actes chapitre 1, verset 12 à 14. « Alors, ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute, où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, etc. etc. Verset 14. « Et tous, d'un commun accord, persévérer dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. » Et oui, cette fois-ci, les frères de Jésus étaient là. Mais quand on lit dans les livres des évangiles, les frères de Jésus eux-mêmes ne croyaient pas trop au fait que Jésus était réellement le Messie, le Fils de Dieu. Mais il faut croire qu'entre-temps, eh bien, ils ont eu la révélation de qui était eh bien, Jésus. Jésus n'était pas seulement leur frère, il était avant tout le Fils de Dieu, la parole qui s'est faite chair. Jésus, il a dit, vous êtes d'en bas, mais moi je suis d'en haut, mon royaume est d'en haut. Quand il a fini de prier, il a dit, Père, redonne-moi la gloire qui m'était, que j'avais même avant la fondation du monde. Et on le voit créer toutes choses. Et il est le commencement, et il est la fin, il est l'alpha, et il est l'oméga. Et je voudrais justement dans ce deuxième point, le premier point, c'était attendre, l'importance de pouvoir attendre de Dieu. La deuxième expression sur laquelle j'aimerais que l'on puisse s'arrêter, je vais terminer par cela, c'est qu'il nous est dit au verset 14, tous d'un commun accord. Les disciples ont prié d'un commun accord. Et j'ai travaillé pour vous, j'ai regardé un petit peu à l'origine, eh bien, quelle était la traduction d'un commun accord, la traduction grecque. Et au fait, d'un commun accord est venu d'un mot grec qui s'exprime de la manière suivante, homotoumadon. Je l'ai répété, hein. Homotoumadon. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir que ce mot, homotoumadon, ce mot grec, eh bien, veut dire littéralement à l'unisson et avec passion. Si bien que l'on peut dire, quelque part, que tous, dans l'unité et avec passion, ils persévéraient dans la prière. Et permettez-moi juste quelques instants de m'arrêter sur ces deux points. L'importance de prier, prier dans l'unité. Quand vous êtes dans cette attente, eh bien, et j'ose rajouter une attente active, il est important que nous puissions prier dans l'unité. Et deuxièmement, avec passion. Prier dans l'unité, car ce qui fait la force d'une église, ce sont les liens fraternels, véritables qui unissent ses membres. Et voilà pourquoi Jésus a pris le temps dans Jean chapitre 17 de pouvoir prier Dieu son Père pour que nous puissions rester un, frères et sœurs. Il est important que l'Église d'Istre reste un. Si je ne suis pas en face, si je ne suis pas uni avec mon frère, ma sœur, frères et sœurs, ma prière ce matin, elle est zéro. Est-ce que nous le comprenons ça? Parce que nous sommes unis d'un lien spirituel et très fort que lui, le Saint-Esprit lui-même a placé dans notre cœur. Nous avons un seul Seigneur, un seul Maître, un seul Père. Un seul sang qui nous a rachetés, graciés. Et on a besoin d'être unis les uns les autres. Vous savez vous-même l'histoire de cette église. et comment l'ennemi a voulu essayer d'ébranler cette église en divisant, en mettant à bien des luttes, des combats. Mais Dieu a permis que l'église reste debout et on a besoin de veiller à ce que l'unité soit là présente. Le livre des Actes des Apôtres est extraordinaire, elle nous donne d'être émerveillés devant nos frères de l'église primitive. On dit l'église primitive parce que c'est l'église naissante, l'église du premier siècle. Et il y a un terme qui caractérise un petit peu l'unité qu'il y avait entre eux, entre les membres de cette même église. La Bible nous dit qu'il n'était qu'un cœur et qu'une âme. C'est fort ça, qu'un cœur et qu'une âme. Je prie Dieu pour que nous soyons qu'un cœur et qu'une âme, qu'on soit vrai dans nos relations, qu'on n'ait pas de différends qui sont là cachés dans nos cœurs. Frères et sœurs, quand les membres d'une même église s'unissent tous ensemble pour prier Dieu, alors ils peuvent s'attendre à vivre de véritables réveils. D'ailleurs, il y a un homme qui a dit, c'est pas moi, c'est un pasteur américain, Arthur Tappan Pearson, il a dit « Je n'ai jamais vu de réveil sans unité dans la prière. » Et croyez-moi, les disciples, eh bien dans la chambre haute, étaient plus que jamais unis d'un commun accord. On l'a lu tout à l'heure, « Homo tout madone ». Avec passion, mais aussi dans l'unité. Ils n'étaient qu'un cœur et qu'une âme. Ils s'attendaient au Seigneur. Il n'y avait pas de différent. Et c'est dans ce contexte-là qu'ils ont connu un réveil des plus particuliers. Vous savez, quand ils sont sortis de la chambre haute, ils étaient complètement changés, transformés. Pierre, qui était craintif, qui avait même réussi à renier le Seigneur 3 fois, le voilà avec une grande assurance. Et quand il a fini de prêcher, 3000 âmes qui se convertissent d'un coup. Ce n'est pas lui, c'est le Saint-Esprit. Et je prie Dieu qu'on soit transformé par le Saint-Esprit. C'est ça qui va nous donner de l'assurance. C'est ça qui, eh bien, lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, nous donne de l'assurance devant notre patron, devant celui qui se moque. Il faut être rempli du Saint-Esprit devant le moqueur. Autrement, on se laisse intimider devant l'arrogant, devant l'orgueilleux, celui qui croit et qui sait tout. Mais quand, alléluia, vous êtes rempli du Saint-Esprit, votre rire surpasse celui qui est en face et qui est en train de se moquer de vous. Une fois, ça m'est arrivé. Oh, je le dis, c'est pas sur mes notes. Un soir, on partait avec tout un groupe de jeunes. J'étais encore étudiant. Et on passait presque une bonne partie de la nuit à évangéliser sur la région toulousaine. Et puis, à un moment donné, on parle du Seigneur à quelques jeunes qui étaient là en face de nous. Ils se mettent à rire. Oh, c'est que ce bon Dieu se rit. Et puis, à un moment donné, le Saint-Esprit m'a saisi. Il m'a rempli d'une grande joie, comme on l'a lu tout à l'heure. Frères et sœurs, une joie mêlée d'un amour pour eux. Et je me suis mis à rire. Et puis, bizarrement, eux, ils ont arrêté de rire. Ils ont vu que ma joie a mangé la leur. La joie du Seigneur mange, alléluia, toute joie, force, qui peuvent être devant vous et qui essaient de vous impressionner, un peu comme le serpent de Moïse. Les magiciens de Pharaon sont venus avec leur serpent. Mais la Bible précise que le serpent de Moïse a mangé les autres serpents. Et Dieu nous donne, avec la puissance du Saint-Esprit, à saisir toute forme de serpent qui pourrait être devant vous. Frères et sœurs, la joie de l'Éternel est notre force. Que Dieu soit béni. Mais pour cela, il faut qu'on soit unis. Imaginez-vous un seul instant que les disciples n'étaient pas unis. Ils étaient là en train de prier, mais l'un ne sait pas voir l'autre. Hein. Seigneur, je te prie, Seigneur, ramène des âmes, etc. Mais on n'est pas en phase. Vous croyez que le Saint-Esprit ne le voit pas? Quand les chrétiens d'une même église sont divisés entre eux, le Saint-Esprit en est attristé. Et hélas, il n'est pas au rendez-vous lorsqu'on l'interpelle pour que le réveil puisse descendre. C'est pourquoi l'apôtre Paul s'exprime de la manière suivante dans Éphésiens. Tout à l'heure, on a lu Éphésiens chapitre 5, mais Éphésiens chapitre 4 nous dit, Éphésiens chapitre 4 verset 3 nous dit, « Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Il y a des gens, ils sont tout gentils devant vous, mais chez eux, ils parlent sur vous. Et si c'était quand bien, tout va bien. Je ne fais pas un jeu de mots. Hein. Et là, c'est en mal. Et ces mêmes personnes attendent que le Saint-Esprit descende sur eux, sur leur famille. Attendent que le Saint-Esprit descende sur certaines attentes qui sont dans leur cœur. Mais à cause de tes mêmes paroles, tu es bloqué. Et pour certaines situations, Dieu va te demander d'abord d'aller demander pardon à un tel ou une telle avant que les situations se débloquent. Je le dis parce que la pensée me vient et je crois qu'elle vient de Dieu. C'est tellement important. Frères et sœurs, nous serons même jugés par rapport à nos paroles. Qu'est-ce qui se dit autour de nos tables? Est-ce que nous bénissons ou est-ce que nous veillons, nous efforçons à conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix? Est-ce que je suis en paix avec tous? Il est donc de notre responsabilité de tout faire pour conserver l'unité de l'esprit parmi nous, en ayant avec l'ensemble des frères et des sœurs, c'est pas qu'une partie, pas avec nos copains, pas avec nos amis, avec l'ensemble des frères et des sœurs, des rapports de paix. Et pour cela, il y a un principe spirituel qui est là, que je voudrais juste rappeler très rapidement. Vous savez, lorsqu'on est au beau fixe d'une manière verticale avec Dieu, nous le serons d'une manière horizontale avec les frères et les sœurs. Vous avez vu le principe ? Et le signe fait le signe de la croix. Quand on a compris l'amour du Seigneur à la croix, eh bien on est rempli d'amour. Déjà pour Dieu, mais aussi pour sa créature. Et pour toutes ses créatures. Il nous demande même le Seigneur de pouvoir aimer nos ennemis. Alors vous voyez, à combien plus forte raison devons-nous aimer aussi nos frères et nos sœurs dans la foi. Ainsi, en attendant la promesse du baptême du Saint-Esprit, on vient de le voir, les disciples priaient tous d'un commun accord. Rappelez-vous de ce terme grec, homotoumadon. Ils priaient dans l'unité, mais, et je veux terminer par cela, ils priaient aussi eh bien, avec passion. Et nous aussi, on a besoin aussi de prier avec passion. C'est vrai, on doit prier avec foi. Ça, c'est incontournable, indispensable, mais on doit prier surtout avec passion. Qu'est-ce que ça veut dire, prier Dieu avec passion ? Eh bien, cela veut dire prier Dieu avec cœur, prier Dieu avec conviction. Ce n'est pas les trucs qu'on marmonne là. Non. Voilà, on est convaincu, on sait qui est Dieu. Comme a dit l'apôtre Paul, je sais en qui j'ai cru. C'est ça, prier avec passion, prier avec engouement, prier avec vivacité, prier avec ferveur, prier avec soif, prier avec zèle. C'est aussi prier avec amour, un amour intense pour notre Dieu. Et pour revenir à notre texte, vous voyez avec quelle passion les disciples ont attendu l'accomplissement de la promesse. Ça se sous-entend au travers du texte. Ils sont restés 10 jours, frères et sœurs. Ils n'ont pas commencé à regarder leur montre. Ils n'ont pas commencé, non. La Bible nous dit dans Luc chapitre 24, verset 53, on l'a lu tout à l'heure, mais je le remets devant vos yeux. Ils étaient quoi ? Luc chapitre 24, verset 53, ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Frères et sœurs, je nous pose la question. Parce que je m'intègre aussi. Sommes-nous passionnés de Jésus-Christ ? Autrement dit, avons-nous faim ? Avons-nous soif de Jésus réellement ? Avons-nous de l'amour pour sa personne ? Avons-nous de l'ardeur, de la ferveur pour notre Dieu et pour les choses de Dieu, pour son royaume ? C'est un fait. La Bible nous exhorte à fuir certaines passions, les passions coupables. On le lit dans l'Épître aux Timothée, il dit « Fuyez les passions de la jeunesse, les passions mauvaises. » Mais par contre, à l'inverse, Dieu nous encourage à être passionnés de Dieu. Et je voudrais terminer par cela. Passionné comme Jésus l'a été. Vous savez, c'est notre exemple en tout point. Je me rends compte de plus en plus, Jésus est notre exemple en tout point. Et quand on regarde eh bien, sa vie au travers des évangiles, Jésus a été quelqu'un de passionné. J'ai envie de dire, il a été un homme passionné, parce qu'il était parfaitement homme, mais en même temps parfaitement Dieu. Passionné, eh bien, parce que partout où il allait, il faisait du bien. Partout où il allait, il venait, il détruisait les œuvres du diable. Jésus, quand il est venu, il a démantelé en 3 ans et demi. Il a fait ce que aucun homme ne pourra faire jamais de la vie. Ce qu'il a accompli à la croix, c'est extraordinaire. Et la passion, eh bien, on la voit également au travers de la croix. On parle de passion, mais Jésus a connu même une autre passion. Celle de vivre le martyre, la souffrance. On parle d'un chemin de croix, c'est le cas de le dire. Jésus a porté sa croix. Mais lui, le prince de la vie, a dû mourir pour chacun d'entre nous. Il a pris mon péché. Il a pris ton péché. Il avait déjà pensé à l'église d'Istres. Il avait déjà pensé à chacun d'entre nous, frères et sœurs. Tous ne sont pas chrétiens, on le sait tous. On peut venir en église, mais ça ne veut absolument rien dire. Mais Jésus connaît les siens. Et il veille sur chacun d'entre nous. Même sur la croix, Jésus, il a prié avec passion. Écoutez ces 7 paroles qui sont sorties de sa bouche. Et Jésus a bien exprimé la passion au travers de cette prière où il a imploré le pardon auprès de son Père. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. À la croix, Jésus a aimé avec passion. À la croix, il s'est donné avec passion. Et je prie Dieu, et je termine par cela, à bien que nous soyons tous les uns les autres passionnés de Dieu, passionnés du Seigneur Jésus. Frères et sœurs, jamais n'essayons de fabriquer ces choses. Mais c'est au pied du Seigneur, alors que on va persévérer homo tu madone. On va d'un commun accord chercher la face de Dieu, que le Seigneur va nous remplir de son Esprit Saint et il va nous permettre, ce dernier, d'être passionné de Jésus, frères et sœurs. Je prie Dieu pour que nos vies chrétiennes ne soient plus superficielles, mais profondes et véritables. Je prie Dieu pour que les membres de l'Église d'Istre soient unis entre eux, afin que lorsque nous nous mettrons à prier et que nous nous attendrons à ce que l'effusion du Saint-Esprit puisse tout à nouveau nous rafraîchir, nous remplir, que le Saint-Esprit soit au rendez-vous, frères et sœurs. Et qu'en retour, nous soyons des témoins, parce que si on est baptisé du Saint-Esprit, c'est jamais pour nous gargariser. Ça va, j'ai mon diplôme, ça va, je suis baptisé. Et je vous l'ai déjà dit, je ne me laisse pas impressionner par un gros parle en langue ou un petit parle en langue. Ce n'est pas le parle en langue qui fait, c'est les fruits de l'Esprit qui doit être manifeste. Si je suis ivre, rempli du Saint-Esprit, je manifeste non seulement les fruits de l'Esprit, mais aussi, alléluia, les dons spirituels. Je termine, et je veux peut-être m'adresser à quelqu'un de manière personnelle. Tu es peut-être dans l'attente de l'accomplissement d'une promesse que Dieu t'a faite. Comme nous l'avons vu ensemble, réjouis-toi, parce que ton attente ne sera jamais vaine. Elle ne sera jamais vaine. Allez pas me dire que le Seigneur m'a dit « Oh, mais j'ai oublié mon fils. Aïe, aïe, aïe. Vite, 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 vite. » Frères et sœurs, le Seigneur est au rendez-vous. Alors mon frère, ma sœur, ne te décourage pas. Mais prie ton Dieu avec foi. Prie-le avec passion. Et lui agira en son temps. Frères et sœurs, que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Que Dieu nous aide à les mettre en pratique. Prions ensemble le Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ses disciples. Seigneur Père, que je les vois courir. Seigneur Père, mon Dieu, pour ce rendez-vous que tu leur fixais. Tu savais qui serait là. Pourtant, tu t'étais révélé à 500 frères à la fois. Ils étaient pourtant environ 120 dans la chambre haute. Je suis convaincu que c'était des gens passionnés. C'était des gens qui avaient compris qui était leur sauveur, mais aussi qui était leur Seigneur. C'est des gens qui ont pris au sérieux tout ce que tu as enduré, la passion, Seigneur, que tu as enduré. Sur le bois infâme. Et nous voudrions, tout comme les disciples, te chercher de tout notre cœur. Certes, dans l'unité. En étant en paix avec notre frère, notre sœur. Mais avec foi et surtout avec passion. Toi seul es capable de réanimer ces choses. Toi seul es capable de nous remplir de cette passion, de ce feu, de ce zèle. Seigneur, tu as dit toi-même, il est dit de toi-même que le feu de ta maison me dévore. Alléluia. Le zèle de ta maison me dévore. Seigneur, qu'il en soit ainsi. Que ton zèle puisse, Seigneur, littéralement nous dévorer, que nous soyons enflammés. Tu as dit, tu ferais. Alléluia, tes messagers, des flammes de feu. Et que nous soyons tous les uns les autres des flammes de feu qui ont la capacité d'engendrer des âmes. Fais-nous grâce, Seigneur, encore ce matin. Pardonne-nous pour tout ce qui a pu attrister le Saint-Esprit. Seigneur, je te prie pour la paix, pour l'unité. Seigneur, qu'elle soit réelle et que l'ennemi n'ait pas, mon Dieu, l'occasion, le moyen de s'infiltrer, de glisser, Seigneur, dans nos familles, dans nos bouches et parmi nous au nom de Jésus-Christ. Mais que cette Église d'un commun accord puisse commencer à te chercher et que nous voyons ta gloire et le réveil que tu veux, Seigneur mon Dieu, non seulement pour cette ville, mais pour tous ses alentours, au nom de Jésus-Christ. Père, nous te le demandons pour la gloire de ton nom. Et enfin, je te demande, Seigneur, pour quelqu'un ou quelqu'une qui souffre parce qu'il est en attente de l'exaucement de sa prière. Tu connais son besoin et il est pressant. Et cela génère au-dedans d'eux de la souffrance. Seigneur, jusqu'à quand, Seigneur ? Telle est leur question, Seigneur, à ton égard. Mais Seigneur, tu fais toutes choses belles en ton temps. Et c'est toi qui interviens. C'est toi qui nous invitais ce matin à regarder vers toi, qui est la lumière. Oui, Seigneur, au bout du tunnel, il y a une lumière. C'est Jésus. Alléluia. Ô Père, et même dans le tunnel, tu es avec nous. Et tu nous tiens par la main. Ô fortifie mon frère, ma sœur. Encourage. Encourage-les. Et que nous voyons des guérisons, des puissances, des miracles, Seigneur, s'accomplir parmi nous. Au nom de Jésus-Christ, nous te le demandons. Père, pour la seule gloire de ton nom. Amen. Et amen. Et le peuple de Dieu dit Amen.